Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes confortablement calés sur la grenouille. Des petites lues aux saveurs marocaines cette semaine. Marrakech accueille la 22e COP, conférence internationale pour le climat. Nous lançons la semaine avec Le Suspect, nouvelle de l'immense écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. Un homme nous conte des fragments de son existence. Il est laveur de carreaux, à Paris, mais avant tout, il est émigré marocain et suspecté de tout, islamiste et terroriste. Cette nouvelle a été publiée une première fois dans le Nouvel Observateur en 1991, pendant la guerre du Golfe. Elle fait partie du recueil « Amour sorcière », publié en 2003 aux éditions du Seuil. Le Suspect, une nouvelle contée, par Elsa Eskenazi.
Je m'appelle Mohamed Bouchaïb. Je suis laveur de carreaux. Je ne suis pas polonais, mais marocain. Depuis quelque temps, certains m'appellent Moha. D'autres, plus malins, m'appellent Bouche. Ils rient. Et je ne sais pas pourquoi. Ils font des plaisanteries autour de mon nom. Je ne savais pas qu'ils pouvaient être drôles. Je suis de taille moyenne, brun, très brun, barbu avec des cheveux frisés. Partout où je vais, je me fais tout petit. Je suis arabe, un arabe pauvre, et je ne suis pas chez moi. Je suis vraiment typée. Je me fais systématiquement contrôler à l'entrée et à la sortie du métro. Il y a toujours un doigt qui me désigne dans la foule. On dirait qu'on m'attend partout où je vais. J'en ai tellement l'habitude qu'il m'arrive de me désigner moi-même à la police pour être fouillée. Je dis aux flics « Me voici ». Certains sourient, d'autres me font signe de dégager. Je suis devenu l'homme standard pour toutes les fouilles. L'ennui, c'est qu'ils ne trouvent rien de compromettant sur moi, et cela les énerve. Ils se fâchent, parce qu'ils ont l'impression de travailler pour rien. Je me sens désolée pour eux. Je ne vais tout de même pas porter une bombe ou un revolver sur moi juste pour qu'ils aient raison et soient satisfaits. Ils pourraient dire à la fin de la journée, en rentrant chez eux, « Enfin, une bonne prise. Le salaud. Il allait poser une bombe au supermarché et sur le chemin, il pensait vendre de la drogue à nos enfants à la sortie du lycée. » Non, je n'arrive pas à jouer leur jeu. Je les déçois et cela ne m'amuse pas. Cela dit, j'ai beau être innocent, j'ai beau avoir la conscience tranquille, il m'arrive parfois de douter. Je doute de moi, je doute de ma famille, de mes amis, de mes papiers. Avant de sortir de la maison, je me mets face au miroir et je me fouille moi-même. Je ne trouve rien. Que de vieux tickets de métro, un mouchoir, quelques pièces de monnaie. Je passe la main dans mes cheveux abondants, comme ils font, et je ne trouve ni couteau, ni plaquette de drogue. Je suis malgré tout inquiet. Je marche en me méfiant. Plus je doute de moi, plus les flics le remarquent et m'arrêtent pour vérification d'identité. Je suis en règle, bien sûr. J'ai dû plastifier mes papiers parce qu'à force d'être manipulé, ils risquaient de partir en morceaux. Attention, je ne suis pas malade. Je suis simplement un suspect idéal. J'ai tout contre moi. À la fin d'une journée de travail, je suis noire. Les vitres des bâtiments parisiens sont vraiment sales. On dirait que je sors d'une mine de charbon. Ma blouse est sale. J'ai les traits tirés et les yeux fatigués. En outre, la barbe que je porte, par paresse depuis des années, fait de moi ce qu'ils appellent un islamiste intégriste. On m'a souvent posé la question. Es-tu intégriste ? Comme si c'était une race ou une nationalité. Je réponds, vous voulez dire si je suis musulman? Oui, je suis musulman. Mais j'aime boire de temps en temps un verre de vin avec les copains. Je ne mange pas de cochon et je vais rarement prier à la mosquée. Je fais le ramadan, ça c'est sacré. Même mes enfants qui sont en âge de jeûner le font. C'est obligatoire, c'est notre religion, ça ne fait de mal à personne. Je ne prie pas tous les jours, mais je fais le ramadan. Avant d'arriver en France, je ne connaissais pas le mot intégriste. Je crois l'avoir entendu pour la première fois à la télé. Alors je serais suspect parce que je suis musulman ou parce que je ne suis pas beau? Ils disent que nous portons la barbe pour leur faire peur. Ben, j'ai une tête à faire peur? Peut-être bien que oui. C'est curieux. Plus je fais attention, plus je soigne ma présentation, plus j'attire la suspicion des flics. Et ils disent « Celui-là, il est pas net. » Et qu'est-ce que c'est qu'un type net? Est-ce un type blanc, de peau et bien habillé? De quelle couleur doit-on avoir les yeux pour être net? Depuis que des camarades m'appellent Bouche, je n'ai que des ennuis. L'autre jour, un policier m'a demandé « Tu serais pas un soldat de Saddam ?» Je lui ai dit qu'il n'y avait de commun entre Saddam et moi que la moustache. On a ri. Et puis j'ai repensé à tout ça. Juste après, il y a eu la guerre. Là, j'ai eu raison d'avoir peur. Je suis entrée dans la guerre comme on entre dans un café. Je m'y suis trouvée dedans, sans le vouloir et sans m'en rendre compte. Comme beaucoup de gens, je pensais que la guerre allait se passer à la télé. Je me trompais. Car la guerre allait venir jusqu'à notre lieu de travail. Je devais ce jour-là faire partie de l'équipe qui nettoie les vitres de la tour Montparnasse. C'était prévu depuis longtemps. Nous étions deux Maghrébins, deux Européens, un Portugais et un Français. Le contremaître nous a dit, à mon collègue algérien et moi, « Non, pas cette fois-ci. Vous allez rester au siège. Il y a du ménage à faire ici. Les toilettes, par exemple. » J'en fus étonné. Surtout que Martin est plutôt du genre gentil. Ce matin, son regard n'était pas net. Il avait quelque chose à nous reprocher. On n'avait rien fait de mal pourtant. Mon copain algérien m'a dit « Tu vois, la guerre a bel et bien commencé. » Nous passâmes la journée à tourner en rond, privés de travail pour raison de guerre. Je pensais que la guerre se passait dans le Golfe, mais voilà qu'on nous considère comme des soldats de Saddam et de l'islam, mis à l'écart, suspectés de je ne sais quel crime. Peut-être que nous sommes des terroristes et nous ne le savons pas. Peut-être que nous avons été investis d'une mission à notre insu. C'est à ces moments de désarroi et de tristesse que je me suis mis à penser à mon village. Je le voyais ensoleillé, fleuri et verdoyant. En réalité, mon village n'est pas beau. Il est même sec et dur. Et c'est pour cela que je l'ai quitté. Mais il me plaisait de l'imaginer autrement. Il y a une beauté intérieure à chaque chose. Même les pierres sont belles. Il est loin, le village. Le patron regarde la télé. On ne voit rien. On entend une voix dire qu'une longue guerre entre les chrétiens et les musulmans a commencé. Je savais que j'étais en guerre, mais je ne savais pas contre qui. Heureusement qu'il y a la télé pour me l'apprendre. On me dit que c'est le djihad, que l'islam va triompher des mécréants. Puis j'apprends que des Arabes se battent contre d'autres Arabes. Tout cela est compliqué. Ce que je sais, c'est que je devais nettoyer la tour Montparnasse et que je suis au chômage technique. Alors je pense à mes enfants. Que vais-je leur dire ce soir? Leur raconter par exemple que les Arabes ont eu leur âge d'or, qu'ils ont inventé le zéro et l'algèbre, qu'ils ont introduit en Europe chrétienne la philosophie grecque et de grandes découvertes en médecine? Je leur citerai le passé glorieux, puis la défaite, les défaites, les guerres d'indépendance, puis le retard collé à notre peau et le présent moche, trop moche pour les faire rêver. Je suis sûre qu'ils ne me croiront pas. Ils penseront que, pour les calmer, j'invente aux Arabes un âge d'or. Mais ils s'en moquent. Mes enfants sont grands. Ils sont trois et ont entre 15 et 20 ans. Quand je leur parle en arabe, ils me répondent en français. Ils ne sont pas fiers de leur père, je les comprends. Ils ne disent rien, mais je sais qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir un père laveur de carreaux. On se parle peu. Les jours de fête, ils s'en vont avec des amis, je les vois à peine. Ce soir, ils doivent être devant la télé. Je n'ai pas le courage de rentrer. Ils doivent m'en vouloir d'être ce que je suis, d'être ce qu'ils sont. Un jour, Rachid, le plus jeune, m'a rapporté ce qu'un surveillant du collège lui a dit après une bagarre entre élèves arabes.
« Bientôt, on va dératiser. »
C'est nous, les rats ? Je ne savais pas qu'on nous appelait les rats. On dit bien « raton » pour arabe et « ratonnade » pour une agression contre un arabe. Mais qu'avons-nous fait à Dieu et à son prophète pour mériter tout ça ? Peut-être que tel est notre destin. Nous serions faits pour émigrer. Notre prophète Mohammed n'est-il pas le premier émigré de l'islam ? Je sais qu'en l'an 622, il a dû quitter la Mecque pour se réfugier à Médine. À présent que la guerre a éclaté, qu'allons-nous devenir ? Je sais. Je vais être plus suspect qu'avant. Je serai fouillé plusieurs fois par jour. Je vais subir sans réagir. Je marcherai sans lever les yeux, sans déranger personne. Je me ferai encore plus petit que d'habitude, tellement petit que je deviendrai un objet négligeable, à peine visible, s'écraser, se taire, avaler des couleuvres, encaisser de nouvelles défaites. J'étais plongée dans ces pensées désespérées lorsque Martin me demanda de faire partie de l'équipe de Notre-Dame. Une fois par mois, notre société nettoie les vitraux de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je fus surpris. Je crus que la guerre était finie. Je ne voulais pas en parler. Les chrétiens ont dû gagner. Martin me dit en posant sa main sur mon épaule
« T'es un type bien, toi. Je peux te faire confiance. Je te connais. Tu n'es pas un extrémiste. Tu n'es pas un méchant. »
J'avalais ces compliments confus et ambigus et rejoignis l'équipe où j'étais le seul arabe. En chemin, je me disais
« Je suis un type bien, puisque le patron l'a dit. »
Et si l'envie me prend de tout casser ? Et si je n'arrive pas à me maîtriser et que je devienne méchant ? C'est quoi un type bien ? Quelqu'un qui baisse la tête et se laisse faire ? D'après la radio, j'ai toujours sur moi un petit transistor, les avions américains ont déversé 18 000 tonnes de bombes sur l'Irak. Ça fait combien de morts, 18 000 tonnes de bombes ? Ils ne l'ont pas dit à la radio. Ça doit faire tellement de monde qu'ils préfèrent le taire. Je ne suis pas irakien, mais ça me fait quelque chose. J'ai comme une douleur ou un poids dans l'estomac. Ce sont des Arabes, des musulmans comme moi, qui ont reçu des bombes. Ils disent à la radio et à la télé que nous sommes des fanatiques. Ils sont forts, ces Américains. Du haut de leur avion, ils repèrent les fanatiques et leur adressent des salutations bourrées de bombes. C'est ça la civilisation ? Ils nous montrent qu'ils savent faire la guerre et qu'ils savent tuer. À Notre-Dame de Paris, il y avait foule ce jour-là. Des hommes et des femmes en petits groupes priaient. Ils se recueillaient en silence, réclamant à Dieu clémence et miséricorde. C'était émouvant. J'avais envie, moi aussi, de prier. Mais il fallait se mettre au travail. À la radio, on a beaucoup parlé de missiles et d'Israël. Du haut de mon échafaudage, je priais intérieurement. J'invoquais Allah et son prophète Mohammed pour qu'il fasse régner la paix sur terre, pour que nous autres Arabes soyons mieux considérés, moins suspects, pas forcément aimés, mais au moins respectés. Le lendemain, je crois que c'était le premier jour de février, alors que j'étais en train de passer un produit sur un superbe vitrail, tout en ayant l'oreille tendue vers le transistor, j'entendis cette nouvelle. Le président François Mitterrand s'est entretenu jeudi 31 janvier par téléphone avec une famille d'agriculteurs israéliens du kibboutz Kfar Anassi. Il s'est enquis de la situation dans le pays et a exprimé sa solidarité aux populations juives qui vivent des moments difficiles. Sans même terminer les dernières retouches, je descendis à toute vitesse de l'échafaudage. Demandais à mes collègues de m'excuser et me précipitais chez moi. Ma femme fut étonnée de me voir rentrer plus tôt que d'habitude. Je lui dis de préparer mes habits de fête, djellaba blanche, sarwal blanc, chemise de soie et de faire brûler de l'encens. Elle me demanda si nous attendions une visite. Je lui répondis « Peut-être. On ne sait jamais. » Je me rasais, me lavais, me mis au salon près du téléphone et attendis l'appel du président.
وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعدم في عين الصغير صغارها.
C'était les petites lues. Sur une proposition littéraire de Margot Wartel, avec Jean-Baptiste Imbert à la réalisation et Elsa Eskenazi à la voix. Vous pouvez retrouver cette nouvelle et ses références musicales sur le site de Radio Grenouille. Belle journée à tous sur les 3-8.
وأكرمهم كلب وأبصرهم
سهدهم فهد وأشجعهم برد. فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغني مفردا. غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر صدور.